Chapitre 4. Ni saint, ni romain, ni empire.
Bon, avec tout ça, où en est-on dans la construction de notre identité européenne? Parce que, comme prévu par le Big Charlie, l'empire précédemment cité n'a pas tenu longtemps après sa mort. Qu'importe, il a posé le deuxième jalon dont peuvent se réclamer les Européens. Et il ne faut pas très longtemps pour que des gens s'en réclament. Un peu plus de 100 ans plus tard, il y a le bon gars Othon Ier. C'est le gars qui idolâtre Charlemagne. Pourtant, Othon est un Saxon. Et vous vous en souvenez sans doute, c'était juste avant que Charlemagne n'avait pas été franchement sympa avec ce peuple. Mais voilà, la christianisation, c'est efficace pour faire oublier les blessures.
Alors Othon, vu qu'il idolâtre Charlemagne, il répète un peu ses gammes. Quand il va conquérir un bout d'Italie, se faire roi des Lombards, et puis coach, plus ou moins, avec le pape, et protéger celui-ci en échange d'une petite bénédiction. Alors, le roi des Francs est désormais vraiment aussi légitimement un représentant du Dieu des chrétiens que le pape lui-même. C'est le début du Saint-Empire romain germanique, tel qu'on l'appelle par chez nous. On est en 962, et on est parti pour un bon bout de temps. Alors bon, il n'est ni vraiment saint dans la mesure où il y aura une lutte permanente entre l'Église et l'Empire. Et il n'est ni vraiment romain parce que, en fait, la seule raison qui ait poussé les dirigeants à se réclamer de l'Empire romain, c'est une quête de légitimité. Et qu'en plus, ils n'ont jamais contrôlé Rome, ni les citoyens de la ville de Rome. Et en plus, il n'est ni vraiment empire dans la mesure où l'empereur n'a jamais eu tout pouvoir, loin de là. Que ce soit militairement ou administrativement. Mais ça reste quand même une entité majeure qui a perduré pendant plus de 800 ans jusqu'en 1806 et qui a imprimé une marque forte dans l'identité de nombreux peuples européens. Et cette histoire, elle a peut-être une part qui s'est écrite sur votre trajet cette année, à Heidelberg, capitale de l'électorat palatin. Car dans ce Saint-Empire, on l'a dit, le pouvoir n'est pas juste aux mains de l'empereur. Les centaines de comtes, ducs, princes, archevêques, princes-évêques, partout dans l'Empire, tirent la couverture à eux. Ils sont sujets de l'empereur, mais rois chez eux. À Liège, durant tout ce temps, on fait partie d'une principauté ecclésiastique, un comté, dirigé par un moine. Oui, yeah.
À Strasbourg, on est une ville impériale libre. On est libre, mais on fait partie de l'Empire. Et quand on attaque l'Empire...
L'Empire contre.
Sorte d'entre-deux, donc un peu étrange, issu d'un mélange d'une volonté d'indépendance et d'autodétermination plus poussé que dans d'autres coins de l'Empire, mais d'une volonté d'avoir quand même une protection par quelqu'un qui protège un peu au cas où l'Empire doit contre-attaquer. Enfin, ça c'est jusqu'à l'arrivée du Roi Soleil, qui annexera assez brutalement Strasbourg après avoir chopé le reste de l'Alsace. C'est seulement 16 ans plus tard que le Saint-Empire reconnaîtra l'annexion. Entre-temps, là aussi les Strasbourgeois sont ballottés entre les puissants. Et si c'est quelque chose qui ne se marquera pas au centre-ville, si vous parlez aux habitants de la région, il y a fort à parier que vous trouverez sans trop de difficultés des gens qui parlent l'alsacien. Je ne vous le dirai pas en alsacien. La volonté d'autodétermination des peuples, c'est fort. Et dans cette région, on continue à se sentir un peu germanique malgré tout, malgré la carte d'identité française. N'empêche, ça vous rappelle quelque chose, cette idée commune à la principauté de Liège et à la ville impériale libre de Strasbourg, d'appartenir à un grand machin, un peu lointain, qui ne régit pas grand-chose, mais qui impose un peu, qui en impose un peu, même si de moins en moins au fil du temps. En gros, cette idée, elle a un nom, c'est l'Europe.
Et dans cette organisation un peu particulière, certaines entités ont un rôle clé. Les électeurs. Car oui, dans la tradition germanique, les dirigeants, dont un grand nombre s'appelle déjà Charles, sont élus, et ce depuis bien longtemps. Ce n'est pas seulement le peuple qui décide. D'ailleurs, c'est même pas du tout le peuple. Il ne faudrait pas pousser les analogies politiques trop loin. Les électeurs, à partir du XIIIe siècle, sont à peu près toujours sept. Et parmi eux, le voilà, le Palatinat. Le Palatinat, cet état dont Heidelberg est la capitale. Alors, pourquoi devient-on électeur d'un empereur dans l'Empire ? Sans doute pour pas mal de raisons. Mais être un comte relativement puissant et bordant un royaume gênant comme la Francie occidentale, future France donc, ça en jette suffisamment. Et c'est aussi une bonne raison pour se faire dévaster par le dit voisin gênant un peu plus tard. On en reparlera. Toujours est-il que cette curiosité politique qu'a pu être le Saint-Empire romain germanique devrait maintenant poser quelques questions nouvelles. L'Europe, c'était un bout de territoire pour les Romains antiques. Avec le Big Charlie, juste avant, l'Europe, en tant qu'enjeu, est le lieu de la culture germano-latine. Le Saint-Empire, il ramène une question toute européenne, passée sous le tapis par les Romains, et qui n'avait pas eu le temps de se poser dans l'éphémère empire carolingien. Comment fédérer des peuples divers, dirigés par des volontés et des intérêts souvent divergents?